Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les sombres énigmes de l'histoire de France » de Dylan Chandouineau est un beau livre documentaire qui rassemble une cinquantaine de grandes affaires non résolues liées au passé français. L'ouvrage couvre une période très vaste, de la préhistoire à l'époque contemporaine et traverse l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes. Son ambition n'est pas de livrer une histoire linéaire de la France, mais de mettre en lumière ses zones d'ombre, ses mystères persistants et les débats qu'il continue de susciter. Le livre s'appuie sur une présentation richement illustrée, avec des photos couleurs et des éléments visuels qui accompagnent les différentes énigmes. Il s'adresse autant aux passionnés d'histoire qu'aux lecteurs attirés par les légendes, les controverses historiques et les récits insolites. En cela, il propose une entrée accessible dans un patrimoine historique moins connu, où la documentation côtoie le dot et où les faits établis restent ouverts à l'interprétation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une cartographie des mystères français à travers les grandes périodes de l'histoire. Le premier intérêt du livre est sa couverture chronologique très large. Dylan Chandouineau ne se limite pas à une époque célèbre ou à une série de cas isolés. Il rassemble des énigmes réparties sur toute l'histoire de France, ce qui permet de montrer que l'incertitude historique n'est pas marginale, mais structurelle. Cette approche donne au lecteur une vision continue des mystères français, depuis les temps les plus anciens jusqu'aux périodes les plus récentes. Le choix est important car il évite une lecture fragmentée et fait apparaître des permanences. Certaines affaires survivent dans les mémoires parce qu'elles n'ont jamais reçu d'explication pleinement satisfaisante. Le livre devient ainsi une sorte de panorama des lacunes du récit historique, où chaque époque laisse derrière elle des questions non résolues. Cette logique de parcours chronologique renforce aussi la dimension pédagogique, car elle replace chaque énigme dans son contexte temporel sans la réduire à une simple anecdote. Deuxièmement, une lecture de la France par ses lieux, ses paysages et ses territoires mystérieux. Le livre se distingue aussi par son ancrage géographique. Les énigmes ne sont pas présentées comme des abstractions, mais comme des récits liés à des lieux précis, des montagnes, des mers, des plaines ou des villages. Cette manière de faire donne une épaisseur concrète à l'enquête historique, parce qu'elle rappelle que les controverses naissent toujours dans un espace réel, avec une topographie, des traces matérielles et une mémoire locale. Le texte met ainsi en relation histoire nationale et territoire, en suggérant que la France est traversée de points de friction où les récits officiels se heurtent à des traditions, à des témoignages ou à des hypothèses concurrentes. Cette dimension géographique est importante pour la compréhension du livre, car elle le rapproche d'une visite intellectuelle du pays. Le lecteur ne suit pas seulement des faits, il parcourt une géographie du mystère. Cela renforce l'intérêt documentaire de l'ouvrage et explique sa place dans la collection des beaux livres illustrés. Troisièmement, une méthode fondée sur la confrontation des théories plutôt que sur une conclusion unique. L'un des traits les plus caractéristiques du livre est son traitement des affaires non élucidées comme des dossiers ouverts. L'auteur ne cherche pas à imposer une réponse définitive à chaque énigme, mais à présenter les différentes théories existantes. Cette méthode est essentielle car elle respecte la nature même des sujets abordés. Dès lors qu'une affaire n'est pas résolue, la pluralité des interprétations fait partie du contenu historique. Le livre invite donc à comparer les versions, à mesurer la solidité des hypothèses et à distinguer ce qui relève de l'attestation, de l'interprétation ou de la légende. Cette approche stimule l'esprit critique sans renoncer au plaisir du récit. Elle place le lecteur dans une position active, puisque celui-ci doit évaluer les arguments au lieu d'accepter une explication unique. Dans le cadre d'un ouvrage de vulgarisation, c'est un choix particulièrement pertinent, car il donne du relief au débat historique tout en restant accessible à un large public. Quatrièmement, des exemples célèbres qui mêlent mémoire populaire, histoire et légende. Le livre s'appuie sur plusieurs cas emblématiques qui appartiennent déjà à l'imaginaire collectif français. La bête du Gévaudan, la folle épidémie de danse de Strasbourg en 518, l'assassinat présumé d'Émile Zola, Nicolas Flamel, le Saint Graal ou le vase de Soissons sont autant de repères connus qui servent de porte d'entrée vers des questions plus vastes. Ce choix a un double intérêt. D'abord, il facilite l'accès au sujet, car le lecteur reconnaît immédiatement certains noms et peut entrer plus facilement dans l'analyse. Ensuite, il montre que l'histoire de France est aussi faite de récits flottants entre archives, traditions et mythes. Le livre ne traite donc pas seulement des faits inconnus, mais de la manière dont certaines affaires deviennent des objets culturels, durables. En les réunissant dans un même volume, l'auteur souligne la continuité entre histoire savante et mémoire populaire. Le résultat est un ouvrage qui éclaire non seulement des énigmes, mais aussi la façon dont elles sont transmises, racontées et transformées au fil du temps. En dernier lieu, un beau livre illustré qui cherche autant à documenter qu'à immerger. La forme du livre compte autant que son contenu. Les sources disponibles soulignent la présence de nombreuses photos couleurs et d'éléments visuels associés aux énigmes, ce qui indique un travail éditorial pensé pour la consultation autant que pour la lecture suivie. Ce choix renforce l'efficacité du propos, car les sujets abordés gagnent à être associés à des traces visuelles, à des lieux ou à des objets qui matérialisent le mystère. Dans la catégorie des livres d'histoire grand public, cette dimension illustrée est importante, elle rend l'ensemble plus accessible, plus attractif et plus mémorable. Elle peut aussi orienter la réception, certains lecteurs appréciant l'atmosphère sombre et d'autres regrettant une esthétique moins lumineuse. Mais cette tension participe justement de l'identité de l'ouvrage. Il s'agit moins d'un manuel académique que d'un livre de curiosité historique conçu pour faire dialoguer information, mise en scène et fascination pour l'inexpliqué. Cette alliance entre documentation et présentation visuelle explique en grande partie son originalité. En conclusion, les sombres énigmes de l'histoire de France s'adressent en priorité aux lecteurs qui aiment l'histoire racontée par ses zones d'ombre, ses affaires non résolues et ses figures légendaires. Il conviendra aux passionnés de mystères historiques, aux amateurs de beaux livres et à ceux qui souhaitent découvrir une autre facette du passé français sans entrer dans un cadre universitaire lourd. Son principal apport est de réunir, dans un format illustré et accessible, une série d'énigmes couvrant plusieurs périodes et plusieurs régions, tout en montrant la diversité des interprétations possibles. Le livre offre ainsi un bénéfice intellectuel clair, il aide à comprendre comment naissent les controverses historiques, comment elles se maintiennent et pourquoi certaines affaires résistent encore à toute explication définitive. Il se distingue de nombreux ouvrages du même genre par son ampleur thématique, son ancrage territorial et sa volonté de présenter plusieurs théories plutôt qu'une réponse simplifiée. Ce n'est pas seulement un recueil d'anecdotes mystérieuses, mais une synthèse visuelle et documentaire sur les failles persistantes du récit historique français. Pour qui cherche à lire l'histoire autrement, c'est un ouvrage particulièrement cohérent dans sa catégorie. Si vous souhaitez soutenir Dylan Chandwino, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !